suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une perte de poids, de la fatigue, des troubles de l'humeur, des difficultés à concevoir ou un changement palpable au niveau du cou. Et si c'était la thyroïde ? Son dysfonctionnement peut se manifester par des symptômes multiples, comme nous allons le voir aujourd'hui dans notre émission Questions de femmes. Et c'est une réalité, ces dérèglements hormonaux sont sensiblement plus nombreux chez la femme que chez l'homme. Autre facteur de risque, l'âge, après 55 ans en particulier, pour l'atteinte la plus fréquente, l'hypothyroïdie. Alors pendant l'émission, nous allons parler des différents troubles et maladies, des différents symptômes et surtout des prises en charge, traitements, chirurgie, avec vos témoignages et vos questions. Et pour nous joindre, notre numéro WhatsApp, le 33 7 71 18 46 41. Quelles sont les fonctions de la thyroïde ? Quel est le nom des différentes affections qui concernent cette glande du système endocrinien ? Avec nous, docteur Charles Alim, bonjour.
Bonjour.
Et c'est précisément à un endocrinologue diabétologue que nous donnons la parole aujourd'hui pour vous éclairer. On vous retrouve en ligne du Sénégal, docteur Alim. Vous exercez au sein du centre antidiabète Marc Sankalé, au sein de l'hôpital Abbas Ndao de Dakar. Et vous êtes rattaché à l'université Cheikh Anta Diop. Et puis, vous trouvez donc en ce moment dans les studios RFI Dakar en full day et Mondincan. Et bien sûr, on remercie toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Première notion pour bien fixer les choses avec une question toute simple, docteur Charles Alim, la thyroïde c'est quoi ?
Alors la thyroïde c'est une glande endocrine située à la base du cou, c'est-à-dire c'est une glande qui produit des hormones et ces hormones sont des hormones thyroïdiennes qui sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc c'est une glande en forme d'aile de papillon, située juste à la base du cou, au devant de la trachée et en dessous du cartilage thyroïdien, on va dire la paume d'Adam.
Voilà. Si je mets mon doigt là dans le petit creux qui est à la base du cou, est-ce que je la sens ou non ma thyroïde ?
Alors, en temps normal, c'est une glande qui est difficilement palpable. On ne la sent pas et en général, on n'arrive pas également à la voir à distance. Maintenant, il y aura des situations auxquelles il y a un dysfonctionnement, des anomalies auxquelles la glande devient visible et palpable. En ce moment-là, on peut avoir une augmentation généralisée, c'est ce qu'on appelle une goitre, ou tout aussi bien une tuméfaction qui est bien localisée, une grosseur en fait locale, c'est ce qu'on appelle des nodules thyroïdiens. Donc quand on a des anomalies morphologiques, en ce moment-là, la thyroïde devient plus facilement palpable et plus visible à l'œil nu.
Alors on a bien compris où se trouvait la thyroïde. Est-ce que, docteur Charles Alim, ces maladies de la thyroïde, elles sont plus fréquentes chez les femmes ?
Oui, effectivement, en termes de prévalence, c'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes. En général, pour 3 femmes et 1 homme par rapport au sexe ratio. Donc, effectivement, il y a quand même cette prédominance féminine concernant ces pathologies.
Il y a aussi la fréquence qui augmente avec l'âge, docteur. Est-ce que l'on sait pourquoi ?
Effectivement, par rapport à l'âge, la prévalence après la ménopause, au-delà de 50 ans, c'est un facteur de risque de dysthyroïdie, mais surtout l'apparition des nodules ou des goitres. Donc, nous savons par rapport au sexe que la différence, c'est surtout du point de vue hormonal. Donc, les androgènes, l'hormone masculine, on va dire, qui joue un rôle protecteur par rapport à l'immunité, l'auto-immunité, tandis que l'œstrogène, qui baisse en fait la régulation centrale des lymphocytes, on va dire, qui seront déréglés et qui vont s'attaquer justement à cette thyroïde. Donc, parmi les causes les plus fréquentes de cette dysthyroïdie, que ce soit dans le versant hypo ou hyper, on a ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Et ces maladies auto-immunes constituent un facteur de risque, en fait, par rapport à cette dysthyroïdie.
Et bien sûr, il faut le dire pour rassurer, parce qu'aussi il peut y avoir des idées reçues. Quand on a une maladie de la thyroïde ou un trouble de la thyroïde, docteur Charles Alim, loin de là, ça ne veut pas dire cancer de la thyroïde.
Exactement. Lorsqu'on a une maladie de la thyroïde, souvent, c'est des pathologies qui sont tout à fait bénignes. C'est facilement gérable, on va dire. Il y a quelques inconvénients, on va dire, mais c'est tout à fait gérable. Et loin de là, rarement, on a en fait, dans les 5-10% des cas, c'est vraiment des cancers. C'est assez rare quand même en termes de prévalence.
Alors, nos premières questions de femmes, elles sont posées par une auditrice du Congo Brazza, c'est Josiane. Elle a une série d'interrogations qu'elle nous a adressées sur la page Facebook de l'émission. Première question, docteur Charles Alim, quels sont les signes de l'hypothyroïdie et de l'hyperthyroïdie ?
Ces signes, tout d'abord, les hormones thyroïdiennes, en fait, agissent au niveau de la digestion, au niveau du rythme cardiaque, au niveau de l'humeur, au niveau du système nerveux central, au niveau de la température, au niveau de la croissance chez les enfants, mais également la maturation du système nerveux central. Autrement dit, c'est des hormones qui agissent un peu partout dans l'organisme. Donc, elles sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, à l'utilisation de l'énergie par notre corps, si bien que l'on parle d'hormones de régulation du métabolisme de base. Donc, dans des situations auxquelles on se trouve en hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'hormones ou assez d'hormones thyroïdiennes par un déficit de production au niveau de la glande elle-même, dans ce cadre-là, on se retrouve avec un cœur qui est ralenti, des troubles du transit à type de constipation, ballonnement, également un ralentissement psychomoteur. On est tout le temps fatigué, on se sent somnolent et également on a des petits troubles, des chutes de cheveux. Parfois, on a l'impression de gonflement avec une prise de poids excessive qui apparaissent de façon progressive sans pour autant qu'il y ait un changement en termes d'habitude alimentaire. Dans l'hyperthyroïdie, on a un métabolisme qui est accéléré, donc le cœur qui est extrêmement accéléré, donc la tachycardie, des palpitations qui s'installent, des difficultés à respirer lors des efforts. Également, sur le plan psychique, une hyperactivité avec une hyperanxiété, des troubles d'humeur, des insomnies également. Au niveau digestif, on peut retrouver une accélération du transit, c'est ce qu'on appelle des diarrhées, qui sont matinales ou rythmées par les repas. Le transit est très accéléré. Une augmentation de la température, la personne a l'impression d'avoir une bouffée de chaleur et tout aussi bien une intolérance à la chaleur. Et bien évidemment, ici, dans ce cadre-là, on a une perte de poids, l'amaigrissement, qui sont des signes qui sont alarmants. Après, bien sûr, par rapport à l'existence ou pas de goitre, de nodules, vont nous orienter par rapport à la cause de ce dysfonctionnement thyroïdien, que ce soit l'hypo ou l'hyper.
Alors, on a une autre question qui porte cette fois sur les personnes dites à risque, hein, docteur Alim, vulnérabilité particulière. C'est Sidonie de Madagascar qui s'interroge. Je vous lis sa question. Est-ce que les maladies thyroïdiennes touchent des personnes en particulier ou est-ce qu'elles concernent tout le monde ?
Elles concernent tout le monde, mais il y a des facteurs de risque qui sont quand même identifiables de nos jours. Parmi ces facteurs, on a la composante génétique. Donc, lorsqu'on a des antécédents familiaux, de goitre, de problèmes thyroïdiens, de nodules ou encore de l'hypo ou l'hyperthyroïdie, il y a souvent certains gènes qui sont prédisposés. Et ces gènes, notamment les HLA-DR2, par exemple, sont héréditaires. Si on a des antécédents familiaux, on est à risque d'avoir ces problèmes de thyroïde. On a également des facteurs environnementaux qui influencent également par rapport à la survenue de ces pathologies thyroïdiennes, notamment la carence en iode, par exemple, qui constitue la première cause mondiale de l'hypothyroïdie. C'est des facteurs qui prédisposent à l'apparition des dysthyroïdies. On a également un facteur psychosocial, mais surtout le stress. Le stress constitue un facteur favorisant et aggravant les maladies thyroïdiennes, que ce soit une pathologie, un goitre ou un nodule sous-jacente qui était là, complètement inaperçu depuis. Lorsque la personne subit un stress psychologique énorme, psycho-affectif ou sur le plan professionnel ou social, ça constitue un élément déclencheur. C'est ce qu'on appelle l'épine irritative. Et en dehors de ça également, on a quelques antécédents, notamment les irradiations, par exemple, cervicales pour n'importe quel type de traitement thérapeutique depuis l'enfance. Quand on subit des irradiations, si ça irradie au niveau du cou, donc on est à risque de faire des dysthyroïdies, des problèmes thyroïdiens, tout aussi bien dans le cas des accidents qui sont on va dire les cas de Tchernobyl ou encore Hiroshima, Nagasaki, c'est des irradiations auxquelles qui font beaucoup de dégâts en fait au niveau de l'organisme. Et bien évidemment, le tabac constitue un facteur qui favorise le goitre. Et c'est un élément qui aggrave également les pathologies thyroïdiennes, surtout lorsqu'on est dans le versant hyperthyroïdie et que la personne est tabagique. Ça constitue un facteur de résistance au traitement et un facteur de complication également.
Et tout de suite, nos premiers témoignages. C'est le moment de retrouver la palabre au féminin de Charlie Dupiot. Elles sont deux autour du micro aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Clarisse, 42 ans, Monia, 55 ans, membre de l'Association française des troubles de la thyroïde. Et c'est Monia qui entame la discussion.
J'ai découvert mon hypothyroïdie après mon accouchement. Quelques mois, pratiquement 5-6 mois après mon accouchement. En fait, il s'avère que j'ai fait une hémorragie de la délivrance lorsque j'ai accouché de mon fils. Après, au fur et à mesure du temps, alors j'avais mis ça, moi, un peu sous le compte de l'après-accouchement et tout. Je me suis dit, bon, c'est peut-être dû à ça. Et j'ai commencé à avoir, au bout d'un moment, des douleurs musculaires, beaucoup de douleurs musculaires. J'avais tout le temps froid. Je dormais beaucoup. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des petites pertes de mémoire, c'est-à-dire que j'avais des blocages. Là, il y a des moments où j'avais du mal à réfléchir et à trouver sur le coup de quoi je voulais me souvenir, un rendez-vous ou quelque chose. Ça m'a un peu inquiétée, donc je suis allée voir mon généraliste. Hein, et il m'a dit, bon, bah, on va quand même faire... des analyses, peut-être de l'anémie ou autre. J'avais vraiment beaucoup de fatigue. Et donc, quand on a fait les examens, effectivement, bah, il s'est avéré que j'étais en hypothyroïdie. Bon, ça m'a un peu soulagée de mettre un mot, justement, sur les mots, hein, effectivement.
Je te remercie d'abord, Mounia, parce que grâce à toi, j'ai pu comprendre un peu c'est quoi la thyroïde. J'ai une amie qui souffre de ça, qui m'a dit elle a eu beaucoup de problèmes dans son ménage parce qu'en fait, elle était un peu trop
nerveuse.
Du coup, à un moment, son mari ne supportait pas parce que le mal, on ne savait pas de quoi elle souffrait exactement. Et vu qu'elle pouvait être nerveuse à un moment, ça a créé beaucoup de problèmes dans son ménage. Et puis, c'est après, puisqu'elle fait c'est une infirmière. C'est lors d'un examen aussi qu'elle a découvert qu'elle souffrait de la thyroïde et que c'était ça qui était à l'origine de sa nervosité.
Nous avons été reçus tous les deux parce que moi, j'ai une très bonne amie qui a une hypothyroïdie. Elle a 60 ans. Elle a vécu très longues années avec son mari. Ils sont toujours bien entendus. Et elle a eu justement une hypothyroïdie, effectivement... très sensible, dès qu'elle s'énervait, elle criait. Mais son mari, il a appris à rester en retrait, parce que quand tu as quelqu'un qui est en hypothyroïdie et qui est hyper stressé, il ne faut pas aller le titiller trop, hein, il ne faut pas continuer justement à rentrer dans ce jeu. Moi, je t'avoue que j'ai appris aussi à me calmer. Alors, moi, je l'ai trouvé à travers le sport, la course. J'ai commencé avec 1, 2, 3, 4 kilomètres et puis j'ai augmenté. J'ai commencé à aimer la course. Tu te dépenses et tu apprends aussi à te calmer. C'est-à-dire que moi, des fois, je m'énerve. Ça m'arrive hein, aussi, hein, même encore maintenant. Maintenant, je m'isole. Je sors. Moi, j'ai divorcé depuis. Hein. C'est te dire.
Je suis un peu plus tranquille maintenant, j'ai moins de stress.
Mais j'ai mon gamin qui a quand même, mon grand qui a 19 ans. Bon, bah, comme tous les ados, des fois, on s'énerve. Maintenant, je ferme la porte, clac, bah, interdit de rentrer. Tu me laisses tranquille. Voilà, j'écoute de la musique. Mais j'ai appris.
C'est dire, que tu fais sur toi-même.
C'est un travail que je fais sur moi. Et je me crée un petit cocon. Le matin, j'ai appris à manger différemment. C'est-à-dire que je prends mon médicament, je prends de l'eau, beaucoup d'eau, et j'attends une demi-heure. Voilà, un petit morceau de pain avec du beurre ou une biscotte. Et puis, j'équilibre mon alimentation, je fais attention, je fais du sport, je continue. Je me suis mise à la boxe. Je me suis mise à la boxe à 53 ans. Et aujourd'hui, j'ai dit, c'est pas elle qui décide pour moi, c'est moi qui décide pour elle.
Voilà. Pour la thyroïde.
Pour la thyroïde. C'est pas elle qui décide pour moi. Je souhaite quand même sensibiliser les femmes. Il faut demander à un moment donné si vous avez des grosses fatigues, si vous prenez du poids, que c'est inexplicable. Donc, il faut vraiment consulter le médecin.
Justement, ça m'a beaucoup ouvert les yeux et j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et je voudrais dire aux autres femmes d'écouter leur corps, d'aller rencontrer des médecins, de ne pas toujours se dire c'est un mal qui va passer et puis après ça s'aggrave. Il faut toujours consulter. C'est très important.
Ne pas rester avec ces symptômes. Docteur Charles Halim, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ça.
Tout à fait d'accord. Effectivement, c'est des signes d'appel qu'il ne faudra pas négliger, on va dire. Une perte de poids inexpliquée peuvent tout aussi bien être en rapport avec une hyperthyroïdie ou dans le versant auquel on prend plus de poids. Ce sont des éléments qu'il faudra faire attention et ne pas hésiter justement à aller voir soit un généraliste en premier temps ou d'emblée consulter un médecin spécialisé.
Alors avant de prendre un premier appel, on a une question de Khadija d'Algérie. Est-ce qu'une insuffisance ovarienne peut avoir un lien avec une hypothyroïdie ?
Oui, effectivement, une insuffisance ovarienne prématurée, dans le cadre d'une ancienne appellation, on parlait d'une ménopause prématurée. La première cause, souvent, en dehors des causes génétiques, c'est une maladie auto-immune. En termes de dysfonction de la thyroïde, les maladies auto-immunes occupent une place fondamentale. Quand on parle de maladie auto-immune, c'est tout simplement un dérèglement, une perte ou la rupture de la tolérance en soi. Donc, on aura des anticorps qui ne reconnaissent pas une partie de notre organisme et qui les agressent. Donc, tant ces anticorps agressent les ovaires, de la même façon, quelques temps après, on pourra retrouver des anticorps qui peuvent ne pas reconnaître la thyroïde et les agressent. Dans ce cadre-là, si on associe les deux, l'atteinte au niveau de l'ovaire et également l'atteinte thyroïdienne, que ce soit l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, parce qu'on peut retrouver des anticorps spécifiques dans les deux cas, on se retrouve face à ce que l'on appelle une polyendocrinopathie auto-immune. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir ce genre d'anomalie associée, c'est-à-dire l'atteinte de plusieurs glandes endocrines. Et dans ce cadre-là, on parle d'une polyendocrinopathie auto-immune qu'il faudra surveiller, bien sûr. Donc, il faudra guetter la surrénale, il faudra guetter le pancréas, les autres glandes endocrines, y compris l'hypophyse également, qu'il faudra faire attention et surveiller en fonction des signes d'appel. On complétera les bilans par la suite ou les examens complémentaires.
Alors, on va prendre tout de suite notre première auditrice en ligne. On part pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Fatoumata, bonjour.
Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, docteur.
Alors, Fatoumata, vous avez 23 ans et vous avez constaté un changement au niveau de votre cou depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer ce qui se passe ?
Ok, donc il y a plusieurs années, on va dire environ 5 ans, 5 à 6 ans, j'ai remarqué une petite boule au niveau du cou, la partie droite. Et au début, vu que c'était indolore, j'y ai pas fait attention. Et là, il y a 2 ans, j'ai remarqué que la boule avait pris une certaine grosseur. Donc c'est là que j'ai décidé de consulter.
Et vous avez vu qui comme médecin ? Un spécialiste ?
Non, j'ai vu... Un ORL.
Un ORL. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez eu un traitement particulier ?
Oui, j'ai fait plusieurs examens et on a vu que j'avais des soucis d'hormones thyroïdiennes. On m'a mis sous traitement de Carbigène.
Vous avez bien réagi à ce médicament ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Pour les premières fois, on m'a mis en dose de 8 comprimés par jour pendant un mois. Et après, c'était toujours pas équilibré. Tantôt, j'étais... en hyperthyroïdie, tantôt j'étais en hypothyroïdie et ça a duré pratiquement 9 à 10 mois.
Mmh. Et ensuite, il y a eu l'opération, c'est ça ?
Oui.
Comment ça s'est passé, cette opération ? Parce que moi, je vous pose cette question, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'auditrices qui nous ont appelées et qui s'inquiètent. On leur a recommandé une opération, elles ont peur. Comment ça s'est passé pour vous ?
L'opération, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après l'opération, on a effectué des examens, il n'y avait rien. C'était pas très douloureux et c'était bien, c'était bien.
Est-ce que depuis, vous vous sentez bien, Fatoumata? Comment ça va?
Oui, oui. Depuis, je me sens bien, je fais des examens, ça va, tout va bien.
Ça va. Donc, vous ne regrettez rien au niveau de l'opération? Vous êtes plutôt contente d'être après?
Oui, oui. Par rapport à l'opération, non, je ne regrette rien. C'est plus le traitement qui a trop duré.
Et vous avez des questions précisément au spécialiste qui est à votre écoute. Allez-y, je vous en prie.
Oui, la première question déjà, ça va être qu'est-ce qui provoque angoisse, parce que moi, je n'ai pas pu avoir de réponse là-dessus. Et puis, la deuxième question, ça va être pourquoi c'est long de trouver les doses médicamenteuses pour équilibrer les hormones. Et la dernière question, ça va être est-ce que la meilleure solution, c'est l'opération dans le cas d'angoisse.
Mais vous, aujourd'hui, vous n'avez plus de grosseur au niveau du cou?
Non, non, pas du tout, mais j'ai une cicatrice quand même.
Ah bah oui, mais pour opérer, c'est un petit peu la loi. Docteur Charles Halim, on a notre auditrice de Guinée qui aimerait avoir des explications sur l'origine et l'évolution du goitre.
Alors, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de ce goitre. Il y a la prédisposition génétique. Quand on a des antécédents familiaux de goitre, de nodules thyroïdiens, c'est des anomalies morphologiques en rapport avec la taille de la thyroïde. Donc on a le gène qui est là. Donc ces gènes prédisposent à l'apparition de goitre ou nodules. Et bien évidemment, quand on parle de gènes, tout ce qui est génétique, la plupart du temps, c'est héréditaire. Et dans ce cadre-là, ça constitue un facteur de risque par rapport à ce goitre. Outre la composante génétique, il y a des facteurs environnementaux et ces facteurs environnementaux, souvent c'est en rapport avec le mode de vie de l'individu, y compris le tabagisme. Le fait d'être tabagique actif ou passif constitue un facteur de risque de goitre. Donc le tabac favorise l'apparition de goitre, mais attention, le tabac n'est pas un facteur de risque de cancer de la thyroïde. Donc en dehors du tabac, sur le plan environnemental, il y a également des facteurs psycho-affectifs. Le stress également constitue un élément déclencheur par rapport à l'apparition ou l'aggravation d'un nodule qui est sous-jacente, qui était de petite taille et qui, au fil du temps, ça s'est aggravé et ça décompense en hyperthyroïdie ou plutôt vers l'hypothyroïdie.
Excusez-moi, je vous coupe, docteur, parce que moi, j'ai une question très simple. Quand il y a cette grosseur dans le cou, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un petit nodule qui devient très gros, c'est ça?
Alors, lorsque la grosseur, elle est bien localisée, c'est un nodule. Par contre, quand c'est généralisé, diffus, quand ça prend toute la glande, parce que c'est une glande en forme de aile de papillon, il y a le côté gauche et le côté droit, le lobe gauche et droit est relié par un isthme. Donc si la grosseur est localisée d'un côté, de petite taille, en général, on parle de nodule. Par contre, quand ça prend la totalité de la glande thyroïde, que ce soit le lobe gauche ou le lobe droit, ainsi que l'isthme, toute la glande thyroïde est augmentée de volume, en ce moment-là, on parle de goitre.
Il y a l'autre question sur le traitement dont elle a été opérée. C'est quelque chose qui est recommandé en général?
Alors, quand le goitre s'installe, ça arrive que au début le nodule était là, c'est passé complètement inaperçu, au fil du temps ça s'est aggravé et le plus souvent il y a des facteurs déclencheurs, soit c'est le stress, soit une prise d'iode par exemple ou encore certains médicaments. Dans ce cadre-là, il y aura une décompensation et la plupart du temps quand on a des goitres avec des nodules, c'est-à-dire il y a des goitres, l'augmentation de volume, mais il y a aussi les nodules. Dans ce cadre-là, le plus souvent, quand ça décompense, on décompense vers le versant hyperthyroïdie. Donc, il faudra stabiliser la thyroïde dans son hyperfonctionnement. Donc, on donne les médicaments qui bloquent la production de ces hormones thyroïdiennes. La molécule qu'elle a citée tantôt, le carbigène, c'est un antithyroïdien de synthèse. Ça bloque la production de la thyroïde. Bien évidemment, il faut la stabiliser sur 2-3 mois si c'était un goitre avec plusieurs nodules. Donc, on donne des traitements d'attaque. Il arrive que ces traitements d'attaque sont de fortes doses. Donc, d'emblée, on se retrouve vers le versant hypothyroïdie dû à ces médicaments. Mais le plus souvent, l'objectif, c'est de donner des traitements pour stabiliser progressivement. On ne le stabilise pas en moins de 2-3 semaines. C'est vraiment minimum 2 mois. 3 mois pour pouvoir la stabiliser. Parce que lorsqu'on a un goitre avec des nodules, le meilleur traitement, c'est vraiment de les enlever. Le souci, si on ne les enlève pas, on risque de faire des traitements à long cours. Et ces médicaments, ces antithyroïdiens de synthèse que l'on va donner pour bloquer la production, c'est des médicaments qui sont extrêmement toxiques et qui ont beaucoup d'effets secondaires, tant sur le foie, mais également qui diminuent les taux de globules blancs. Donc, on devient extrêmement fragile et on risque de faire ce qu'on appelle une agranulocytose immunoallergique auquel on n'a presque plus de système de défense et on devient vulnérable à n'importe quel type d'infection. Si on donne des médicaments qui bloquent, donc ça va marcher, mais si on n'a pas agi par rapport aux facteurs déclencheurs, ces facteurs-là, il faudra les prendre en charge, y compris le contexte psycho-affectif, le stress également. C'est des éléments à tenir en compte lorsqu'on prend en charge ces pathologies thyroïdiennes.
Merci infiniment, en tout cas, Fatoumata, pour votre témoignage. On a essayé de joindre Rose à Yaoundé, mais hélas, ça ne passe pas. Alors, Rose, elle a 38 ans, j'aime faire sa porte-parole en quelque sorte. Aujourd'hui, elle pèse 100 kilos pour 1m69 et elle avait repéré, après un accouchement en 2015, une boule au niveau de la gorge. Elle a pris des traitements, on lui a dit que sa thyroïde était fatiguée, donc on lui a prescrit du lévothyrox. Elle a eu d'autres grossesses, d'autres bébés pendant les années qui ont suivi et elle ressentait une forme de fatigue généralisée, d'angoisse. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle prend du lévothyrox. Elle est allée voir l'endocrinologue il y a un petit peu plus d'un an. Là aussi, on lui a conseillé une opération de sa thyroïde et elle se pose des questions justement sur le lien entre ses problèmes de thyroïde et son poids. Docteur Charles Halim, par exemple, de savoir si on lui enlevait sa thyroïde, est-ce qu'elle aura ensuite des problèmes, oui ou non, pour perdre du poids?
Alors, lorsqu'on enlève la thyroïde, on n'a plus de glande thyroïde, donc il n'y a plus d'hormones thyroïdiennes. Et là, on est en hypothyroïdie. Elle sera obligée de prendre des substituts, des comprimés qui remplacent cette hormone thyroïdienne. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on est en hypothyroïdie, le métabolisme est ralenti, donc il y aura une prise de poids, parce que tout simplement, l'organisme ne fonctionne pas assez, donc on a tendance à stocker plutôt que de dépenser. Mais cette prise de poids sera bien contrôlée si elle a une alimentation qui est saine et tout à fait équilibrée. Elle ne sera pas obligée de prendre du poids, et si bien lorsque la thyroïde est stable avec la substitution, c'est-à-dire en normalisant la fonction thyroïdienne avec le comprimé qu'elle va prendre pour remplacer sa glande thyroïde. Dans ce cadre-là, sa thyroïde, le fonctionnement en tout cas, elle est tout à fait normale et dans ce cadre-là, il n'y aura pas de prise de poids.
Voilà pour ces explications. En tout cas, on remercie Rose, hein, puisque c'est elle qui nous a fait partager une chanson de son choix, le son envoûtant des sœurs Nubians avec Makeda.
Maqueta.
Priorité santé sur RFI, émission Question de femmes. Nous parlons des troubles et maladies de la thyroïde. Quelles sont les fonctions de cette glande du système endocrinien? Quelle prise en charge en cas de symptômes? Toujours avec le docteur Charles Halim, endocrinologue diabétologue à Dakar, dans les studios RFI en full day et Mandincan pour répondre aux questions des auditrices. Et c'est maintenant de Bafoussamo, du Cameroun, que Mahangali a laissé ce message sur le répondeur de l'émission. Pour cela, elle a composé notre numéro WhatsApp, le 33 7 61 18 46 41. On écoute Mahangali.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonjour aux auditeurs. Je m'appelle Mahangali, de nationalité camerounaise. J'ai 46 ans. En 2017, suite à une baisse d'audition, j'ai subi une panoplie d'examens et l'échographie du cou a montré une anomalie au niveau de la glande thyroïdienne. On m'a ainsi diagnostiqué un carcinome papillaire. C'est ainsi qu'en mars 2018, j'ai subi une thyroïdectomie partielle. Mais en février 2019, finalement, on a procédé à une thyroïdectomie totale. Il faut noter que cette opération entraîne une certaine discipline dans la prise des hormones qui se fait quotidiennement, ainsi que des examens fréquents à faire, notamment ceux de la TSH T3 et T4. Et dans mon cas particulièrement, j'ai eu une grosse prise de poids depuis que je suis ce traitement de levothyrox. Je tiens à noter que ma maman a également eu le même problème de santé il y a un peu plus de 25 ans. Elle a subi une thyroïdectomie totale et jusqu'à ce jour est sous traitement hormonal. Moi, j'ai toujours une santé très délicate. C'est ainsi qu'en 2020, on m'a finalement diagnostiqué un lupus. Ma question est la suivante. Est-ce le lupus qui a induit le dysfonctionnement de la thyroïde? Ou est-ce la thyroïde qui a impulsé la manifestation de cette maladie auto-immune? Merci à vous sur le plateau.
Mahangali du Cameroun qui a été diagnostiquée d'un carcinome papillaire. De quoi s'agit-il?
Le carcinome papillaire, c'est une forme de cancer de la thyroïde. Dans des rares cas, ces petits nodules qui apparaissent, les petites grosseurs localisées, peuvent être des cancers. Et ça, c'est dans pas plus de 10% des cas auxquels on peut se retrouver face à ces situations. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de signe d'hypo ou d'hyperthyroïdie. On aura plutôt cette grosseur avec quelques ganglions à côté, parfois des petites signes qui compriment un peu la trachée ou encore l'œsophage.
Alors à la suite de ce diagnostic, il y a eu l'ablation avec donc la prise d'un traitement de substitution chaque jour, le suivi fréquent aussi. Et puis après l'opération, il y a eu un diagnostic de lupus. Mahangali se demande donc s'il peut y avoir un lien entre ces deux problèmes de santé.
Non, directement non, il n'y a pas de lien entre le lupus et le carcinome papillaire. Toutefois, sur le plan facteur de risque, on peut retrouver des facteurs qui prédisposaient au cancer papillaire et qui favorisent également la survenue du lupus, qui est une maladie auto-immune. Donc parmi ces facteurs, la génétique, encore une fois, quand on parle de cancer, la composante génétique, l'hérédité, toujours est là. À côté également, certaines irradiations, certaines maladies coliques que l'on peut retrouver. Et par rapport au lupus, c'est une maladie auto-immune, auto-inflammatoire. Donc le stress déclenche également les maladies auto-immunes. Donc qui dit maladie auto-immune, des anticorps qui sont déréglés et qui agressent un peu partout, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des glandes ou encore au niveau des systèmes d'organes ou d'appareils. Donc il n'y a pas de lien de causalité directement. Par contre, on peut retrouver des facteurs de risque qui sont communs entre les deux.
Alors, on a une auditrice de Kinshasa, c'est Véronique, qui reprend un petit peu une inquiétude pas mal partagée par les auditrices de Priorité Santé et de RFI. Elle demande si une intervention chirurgicale, c'est fiable et sans risque quand on a une maladie de la thyroïde.
Une intervention chirurgicale, elle est fiable. Donc, c'est indiqué dans le cas auquel la grosseur, en fait, le goitre, comprime les structures avoisinantes ou gêne du point de vue esthétique, donc le choix de la patiente même, en disant que voilà, ça la gêne beaucoup. Dans ce cadre-là, il faut l'enlever. On n'aura plus de soucis de goitre ou consort. Le souci, comme toute intervention, il y a des risques. Et parmi ces risques, en enlevant la glande thyroïde, vu ses rapports avec les structures avoisinantes, derrière la glande thyroïde, on a des petites glandes parathyroïdes, c'est ce qu'on appelle des glandes parathyroïdiennes, qui gèrent le calcium et le phosphore dans l'organisme. Donc si les chirurgiens enlève toute la glande par inadvertance dans ce cadre-là, on aura des soucis de régulation de calcium. Tout aussi bien, il y a des nerfs, en fait, qui sont responsables de la vocalisation. Et ces nerfs-là, lorsqu'ils sont touchés par la chirurgie, on aura des dysphonies, des difficultés à parler. Tout aussi bien, après la chirurgie, on peut avoir des hématomes qui compriment au niveau respiratoire ou au niveau œsophagien par rapport à l'alimentation. Toutefois, si la chirurgie, elle est bien faite, par des bons chirurgiens bien expérimentés, on peut ne pas retrouver tous ces effets indésirables.
Alors, on a une autre auditrice hein, qui a joint notre numéro WhatsApp pour enregistrer un message et vous poser une question. C'est Didine qui réside à Rome, en Italie. Didine qui avait souhaité que sa voix soit modifiée. On l'écoute.
Je suis Didine de Rome. J'ai été diagnostiquée hyperthyroïdique avec la maladie auto-immune de Basedow. J'ai mis 2 ans à être stabilisée. Ça a été très, très dur pour moi, de 2015 à 2017. Maintenant, je suis stabilisée. J'ai des nodules à la thyroïde et je reste très sensible aux émotions qui ne sont pas prévues. J'aimerais savoir, d'après vous, quel est le rôle des émotions dans cette maladie et est-ce que ça dure toute la vie ? Merci beaucoup.
Alors, on a cette question de Didine de Rome. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Charles Alim ?
Les émotions, en dehors de tout stress, en général, lorsque la thyroïde elle est tout à fait stable, ne constituent pas un élément majeur en fait, par rapport au dérèglement. Par contre, si la thyroïde n'est pas stable, effectivement, c'est un élément déclencheur par rapport au dysfonctionnement de cette thyroïde. Donc, dans la mesure auquel, si elle est bien stable sur le plan thyroïdien, après le traitement médical, si on a fait une ablation, elle se retrouve en hypothyroïdie. Donc, si elle est bien stable et que toute émotion, elle est extrêmement sensible, malgré la stabilité thyroïdienne, ça veut dire que, sur le plan psychique, ce n'est pas lié à la thyroïde. Dans ce cas-là, il faut quand même une prise en charge psychologique ou psychiatrique, on va dire, donc des psychothérapies de soutien, d'accompagnement, faites par des experts, les psychologues et également les collègues psychiatres pour l'accompagner.
Quand Didine explique qu'elle est stabilisée sur le plan de la thyroïde, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire tout simplement que sa thyroïde, au moment où elle en parle, elle est tout à fait stable. Elle prend des médicaments, il n'y a plus de dérèglement, tant sur le plan hyperthyroïdie ou encore sur le plan hypothyroïdie. Donc le fonctionnement de la thyroïde est tout à fait normal. Les besoins produits en fait en termes de quantité d'hormones sont tout à fait en proportion physiologique. Dans ce cadre-là, on dit que la thyroïde elle est stable, avec une TSH bien sûr qui est tout à fait normale, ainsi que les T3 ou T4.
Alors c'est à présent au Tchad hein, qu'on retrouve Neloumta, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes dans la ville de Sar, Neloumta, vous avez 42 ans et suite à des problèmes de transit, vous avez consulté. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous expliquer ce qui s'est passé, quels étaient ses premiers symptômes ?
Oui, la constipation.
Et donc pendant 2 ans, vous aviez des problèmes pour aller aux toilettes, c'était compliqué. Comment est-ce que vous avez eu l'idée justement que ça pouvait être lié à un problème de la thyroïde ? Qu'est-ce que vous a dit le médecin ?
Oui, le médecin m'a parlé de cholestétite.
Vous aviez un problème. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, docteur Charles Alim, sur ce que vient de dire Neloumta ?
Peut-être qu'elle veut dire un problème de péristaltisme. Le cours du transit intestinal est complètement ralenti. Mmh. Donc, à l'origine des constipations, il n'y a pas un obstacle mécanique, en fait. Le transit, en fait, sur le plan fonctionnel, est ralenti. Ça fait partie des signes, en fait, auxquels l'hypothyroïdie se manifeste. C'est cette constipation-là.
Ça veut dire qu'au début, vous avez été traité pour le transit et puis quand vous avez arrêté le traitement, c'est ça, hein, Neloumta, eh bien les symptômes sont revenus ?
Oui, les symptômes sont revenus. L'insomnie, bien le tremblement, élévation de la température des cieux, amaigrissement très rapidement, gère respiratoire, gonflement du cou et du visage.
Ah, vous aviez aussi des œdèmes. Alors, est-ce que vous avez revu un médecin ? Et est-ce qu'après, justement, avec le traitement du médecin, est-ce que ça va mieux aujourd'hui ?
Oui, ça va mieux aujourd'hui.
Mais vous avez quand même des questions à notre invité, hein, Neloumta. Allez-y, je vous en prie.
Ok. Mes questions sont, comment faire la différence entre l'hyperthyroïde et l'hypothyroïde ? Et faire, comment faire disparaître mes œdèmes ? Comment comprendre les complications de thyroïde ? Et en même temps, je souffre de l'hypertension artérielle et problèmes cardiaques. Est-il possible que la thyroïde influence ma situation cardiaque.
Ça, c'est une question très intéressante que pose Neloumta, docteur Charles Ali. Mais est-ce qu'il peut y avoir un lien entre sa maladie de la thyroïde et ses problèmes d'hypertension, voire même quelques problèmes cardiaques?
Oui, effectivement, lorsqu'on a une hypo ou hyperthyroïdie, on peut avoir des retentissements cardiovasculaires, y compris l'hypertension artérielle. Le problème, c'est que le cœur est tellement accéléré qu'à un moment donné, le cœur perd le rythme. Donc, on aura des troubles du rythme cardiaque qui apparaissent. Et ces troubles du rythme cardiaque entraînera par la suite une insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque apparaît sous forme d'œdèmes, en fait, qui sont généralisés. C'est ce qu'on appelle des états d'anasarque, une tension d'eau et du sel dans son organisme. Et lorsque on stabilise en fait l'insuffisance cardiaque qui est là, dans ce cadre-là, on peut faire régresser ces œdèmes et les faire disparaître. Tout aussi bien l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie aussi à cause du ralentissement du cœur, donc entraînera des troubles de la conduction. Donc le cœur sera extrêmement ralenti qui, à la longue, peuvent entraîner des conséquences en fait catastrophiques. Dans ce cas-là, on est obligé de mettre en place des médicaments qui peuvent booster un tout petit peu le cœur de telle sorte pour les stabiliser.
Aujourd'hui, Neloumta, vous prenez des médicaments pour la thyroïde?
Levothyrox 115 mg.
Vous prenez du Levothyrox 115, c'est quand même assez fort comme concentration, docteur Charles Alim.
C'est assez fort, mais les besoins varient en fonction de son état et de son âge. Donc, c'est entre 150 et 250, parfois jusqu'à 300 chez les femmes enceintes ou chez les enfants. Donc, si elle est jeune, femme adulte jeune entre 20 et 40 ans, c'est la proportion idéale entre 100 et 150. Par contre, si elle est âgée, on a moins, les besoins sont beaucoup plus basses, plus faibles. Dans ce cas-là, elle ne va pas dépasser les 50-25 microgrammes par jour.
Alors, vous aviez aussi des questions, Neloumta, par rapport à l'alimentation et la thyroïde. Allez-y.
Oui. Est-ce que l'alimentation peut influencer négativement la thyroïde, telles que les tubercules, les choux et les légumes?
Est-ce qu'il peut y avoir une incidence, donc, docteur Alim, par rapport à ce qu'il y a dans l'assiette et l'état de la thyroïde? En particulier, c'est vrai qu'on parle souvent du manioc, par exemple.
Oui. Alors, l'alimentation, en fait, joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc, il faut avoir une alimentation qui est saine et équilibrée. Donc, en parlant de certains aliments, bien évidemment, ce qui est recommandé, il faut prendre des aliments qui contiennent de l'iode. Donc ça, pour avoir une thyroïde saine, il faut que les aliments contiennent de l'iode. Et souvent, on les retrouve dans tout ce qui est des produits en fait en provenance de la mer, par exemple, les algues, les poissons, etc. Bien évidemment, certains aliments, par contre, ne sont pas recommandés lorsqu'on est en hypothyroïdie. Donc ces aliments contiennent en fait de la thiocyanate qui va bloquer l'absorption de l'iode par la thyroïde. Et ces aliments, on les retrouve. Par exemple, je prends les crucifères, les choux, les brocolis, il y a également les navets, les radis, mais tout aussi bien les tubercules comme les manioc, les patates et également des arachides. Ces aliments, en fait, sont des aliments goitrogènes. Donc, ça bloque l'absorption de l'iode. Donc, l'iode, c'est le carburant par rapport au fonctionnement de la thyroïde. S'il n'y a pas d'iode, la thyroïde va essayer de compenser, produire quand même des hormones thyroïdiennes sans pour autant qu'il y ait de l'iode. Dans ce cadre-là, la thyroïde fonctionnera en excès. On aura des goitres. Donc, en situation d'hypothyroïdie, on évitera ces aliments-là, tant bien que mal, bien sûr. Ce n'est pas complètement à interdire, mais la fréquence de la consommation, il faudra les limiter, tout simplement.
Alimentation équilibrée. Un grand merci à vous, Neloumta, pour ces questions et très très bonne journée au Tchad. Voilà pour toutes ces explications. On va se dire au revoir et un grand merci à vous, docteur Charles Alim.
Je vous en prie et à très bientôt.
À très bientôt, j'espère. On ne se quitte pas tout à fait puisque c'est en musique qu'on va vous remercier encore, vous dire très bonne journée. En musique avec Sheila I et Bemba Colora dans Priorité Santé sur RFI.
¿Cómo tú tienes? ¿Cómo tú tienes?
Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Louise Kaledek, Talimpo, Damien Roucou à Dakar, Aline Diagne et Malan Sonko. Ici à Paris, Didier Bleu à la réalisation. Lundi, c'est Chantal Laureau que vous retrouverez derrière ce micro pour parler des brûlures, des lésions provoquées par diverses sources de chaleur ou de rayonnement, prévention, évaluation, prise en charge de la douleur et des cicatrices des brûlures. Si vous avez des questions, bien sûr, notre numéro WhatsApp, le 33 7 61 18 46 41.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque